n'était plus possible pour le médecin d'ignorer davantage les hurlements et la puanteur épouvantable qui envahissaient, plus qu'ailleurs, la grande salle aux piliers et semblait provenir d'un sous-sol encore plus profond, d'un monde souterrain mystérieux et infernal. Avant d'explorer les passages voûtés à la recherche d'un autre escalier qui le mènerait plus bas, Willett examina le dallage avec sa lampe torche. Il était irrégulier, avec ici et là des pierres percées de petits trous. Une échelle était posée négligemment sur le sol qui dégageait en concentré cette odeur immonde qui flottait partout. En marchant lentement, Willett remarqua que cette puanteur était beaucoup plus forte près des dalles trouées, comme si elle donnait sur des culs de basse fosse encore plus ignobles. Il s'agenouilla et essaya d'en déceler une à main nue. Péniblement, il arriva à la faire bouger. C'est à ce moment que le cri devint plus aigu, mais bien que pris subitement de tremblements incontrôlables, Willett poursuivit. Quand il arriva enfin à soulever la dalle et à la faire basculer de côté, le médecin fut pris de vertige à la pestilence infâme qui s'élevait du fond du trou qu'il venait d'exposer et qu'il éclairait à présent avec sa torche. S'il avait espéré trouver un escalier menant vers d'autres horreurs, il dut être déçu car il ne discerna qu'un cylindre de briques d'1 mètre de diamètre, sans échelle ni aucun moyen de descente. Comme la lumière glissait le long du puits, le gémissement se changea en une suite de glapissements accompagnés d'un bruit frénétique de vaines escalades sur les parois glissantes. Le médecin tremblait de plus belle, se refusant d'imaginer quel être effrayant pouvait être tapi dans ces profondeurs malsaines. Mais reprenant soudain courage, couché de tout son long, il plongea entièrement la lampe à bout de bras dans le puits pour voir ce qui s'y tapissait. D'abord, il ne distingua que le mur gluant, couvert de mousse, qui descendait irrémédiablement vers une noirceur presque tangible d'abjection et d'angoisse frénétique. Puis il aperçut la chose noire qui bondissait et bondissait maladroitement, furieusement, avant de retomber tout son poids sur le sol situé à 6 ou 8 mètres de profondeur environ. La torche tremblait dans sa main, mais il regarda de nouveau pour voir enfin quelle pouvait bien être cette créature emmurée dans l'obscurité, sans nourriture depuis 1 mois que les médecins avaient emmené Charles. Une créature qui n'était pas la seule de son espèce, car il y avait des dalles trouées un peu partout sur le sol du grand hall. Une créature qui ne pouvait même pas s'étendre, qui avait pleuré et attendu toutes ces affreuses semaines depuis que son maître l'avait abandonnée. Mais Marinus Willett regretta d'avoir regardé une deuxième fois, car tout chirurgien, vétéran des salles de dissection qu'il ait été, il ne s'en remit jamais. Il est difficile d'expliquer comment un simple coup d'œil à un objet tangible, mesurable, en fin de compte bien réel, peut ainsi ébranler et changer un homme. Tout ce qu'on peut affirmer, c'est que certaines formes ou entités peuvent renfermer un pouvoir de suggestion, une symbolique effrayante à tout esprit sensible à même de saisir les indices d'une obscure réalité cosmique, au-delà des confortables illusions où notre naïve représentation des choses nous maintient. Dans ce deuxième regard, Willett aperçut une telle entité et bascula quelques instants dans une démence frénétique de celle que le docteur Waite traite parfois dans sa clinique. Il lâcha sa lampe électrique et ne fit même pas attention au coup de dent qui en scellait le sort au fond du puits. Il cria, rugit, hurla, sans pouvoir se contrôler, et hurla encore d'une voix de fausset méconnaissable. Incapable de se relever, il roula sur le sol et se mit à ramper désespérément loin des dalles humides, où des dizaines de ces oubliettes de l'enfer gémissaient et glapissaient en réponse à ses propres hurlements de fou. Il s'écorcha les mains sur les dalles descellées, se blessa la tête plusieurs fois sur les nombreuses colonnes, mais continua de se traîner jusqu'à ce qu'enfin il revienne à la raison, malgré l'obscurité, malgré les hurlements sinistres dont il se protégeait en se bouchant les oreilles, malgré cette puanteur nauséabonde. Il était en sueur, sans lumière, dans une horreur noire et abyssale, écrasé par une vision qu'il ne pourrait jamais effacer de sa mémoire. Sous lui, toutes ces choses vivaient, et un de ses puits était encore ouvert. Il savait que ce qu'il avait vu ne pourrait jamais escalader les murs glissants, mais il tremblait à la pensée que la créature trouve peut-être un appui. Jamais il ne voulut dire ce qu'elle était. Elle ressemblait aux sculptures de l'autel, à cette différence qu'elle était en vie. Ce n'était pas la nature qu'il avait créée, elle était trop inachevée, trop estropiée, de proportions indescriptibles, et Willett se borna à dire que ce devait être une entité créée par Ward à partir de sels imparfaits, qu'il gardait là, prisonnière destinée à quelques rituels inconnus, comme on en voyait sur les bas-reliefs de cet autel maudit. Ce n'était d'ailleurs pas la seule horreur évoquée sur cette pierre, mais le médecin n'ouvrit jamais les autres puits. La première idée qui lui vint à l'esprit fut ce paragraphe d'une lettre adressée à Kerven qu'il avait lu il y a longtemps. Une phrase écrite par Simon ou Jedediah Horn dans une de ses lettres confisquées. À l'évidence, il n'y avait qu'une monstruosité dans ce que H a invoqué à partir de ce qu'il n'avait pu réunir totalement. Il se rappela également les légendes évoquant ce corps brûlé et déformé qu'on avait trouvé dans les champs une semaine après l'expédition. Charles lui avait parlé du témoignage du vieux Slocum qui racontait que ce n'était ni le cadavre d'un homme, ni celui d'un animal connu des habitants de Pottuxet. Ses mots se bousculaient dans sa tête alors qu'il allait et venait sur le sol pavé. Il essaya de les chasser en récitant plusieurs fois un autre père qui finit par se transformer en un fatras d'ineptie, un peu comme dans la terre vaine de T.S. Eliot, avant d'évoluer lentement vers cette formule double qu'il avait trouvée quelques heures auparavant dans la bibliothèque secrète de Ward. Ya-yenganga yok-sotot. Ya-yenganga yok-sotot. Ya-yenganga yok-sotot. Ya-yenganga yok-sotot. Ya-yenganga yok-sotot. Cela sembla le calmer, et il finit par se lever péniblement, se lamentant sur la perte de sa torche et cherchant désespérément une lueur dans l'obscurité glaciale, un rayon de lumière qui viendrait de la bibliothèque où il se rappelait bien avoir laissé les lampes allumées. Au bout d'un moment, il crut apercevoir un reflet. Il s'y dirigea à quatre pattes avec d'infinies précautions, de peur de se heurter à un des piliers, mais surtout de tomber dans l'abominable cachot qu'il avait ouvert. Après quelques minutes, il sentit sous ses doigts tremblants ce qui devait être les marches de l'autel satanique dont il s'écarta violemment avec répulsion. Un peu plus loin, il trouva la dalle qu'il avait enlevée. Il ne se déplaçait presque plus, écrasé par une angoisse pathétique. Mais il ne rencontra finalement pas la terrible ouverture dont rien ne s'échappait à ce moment. La chose était immobile et silencieuse. Peut-être s'était-elle étouffée avec la torche électrique. À chaque fois que ses doigts touchaient les trous d'une dalle, Willett se remettait à trembler, d'autant que son passage par-dessus les puits provoquait, heureusement pas très souvent car il avançait en silence, une réaction de l'occupant. À plusieurs reprises, la lumière vers laquelle il se dirigeait faiblit, et il comprit qu'une à une, les lampes et les bougies commençaient à s'épuiser. La pensée d'être égaré, sans la moindre allumette, dans l'obscurité totale de ce labyrinthe cauchemardesque, le fit finalement se redresser et courir, ce qu'il pouvait faire maintenant sans risque, ayant dépassé depuis longtemps le puits béant. Si la lumière venait à disparaître, sa vie ne tiendrait plus qu'à un fil, l'équipe de secours que M. Ward finirait peut-être par envoyer. Mais après combien de temps? Bientôt, cependant, il atteignit le corridor plus étroit et retrouva enfin la lumière qui venait d'une porte sur sa droite. L'instant d'après, il entra enfin dans la bibliothèque souterraine de Charles Ward, où la dernière lampe, qu'il avait sauvée, commençait elle aussi à donner des signes de faiblesse.